Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, ma chronique évoque encore les langues universelles. Les hommes ont toujours cherché des moyens plus simples pour communiquer entre eux, quitte à inventer des langues nouvelles qui se veulent les plus simples. Dès le XVIIe siècle, plusieurs philosophes recherchèrent une langue universelle propre à exprimer le vrai. Le XVIIIe siècle ne demeura pas en reste. On se fonda sur des racines primitives, universelles, données à l'homme par la nature. Puis, survint le XIXe siècle, qui vit l'apparition pléthorique de méthodes de langue universelle. En voici quelques exemples. Bien avant l'invention du téléphone, un certain François Sudre mis au point la téléphonie ou télégraphe acoustique pratiquée au moyen de quatre sons, sol, ut, mi, exécutés sur le clairon, pouvant au besoin remplacer tous les moyens de communication. Cette définition constitue le titre de son ouvrage. Il fut publié en 1844 et approuvé par l'Institut Royal de France. L'inventeur de la langue musicale universelle est mort avant que sa glorieuse tâche fût entièrement accomplie, mais sa veuve Joséphine Sudre s'est dépensée sans compter pour la propagation de l'ouvrage de son époux. Elle obtint même une chaire à l'Université de France, où elle donna des cours gratuits et publics. Un ex-inspecteur des écoles du Calvados, du nom de Letellier, composa quelques années plus tard, en 1852, un cours complet de langue universelle, offrant en même temps une méthode facile pour apprendre les langues et pour comparer en quelques mots toutes les littératures, mortes et vivantes. Il est significatif que les professeurs se soient mis de la partie et aient tenté de simplifier ce qui finalement n'avait pas besoin de l'être. Louis de Rudel, qui se présentait aussi comme un ancien professeur, s'appuya, lui, sur la grammaire primitive d'une langue commune à tous les peuples, Pantos, Dimus, Glossa, destiné à faciliter les relations internationales dans les cinq parties du monde. Vaste programme. Et cette grammaire primitive vit le jour à Bordeaux en 1858. Rudel y fait la synthèse de 10 langues de ses connaissances, le latin, le grec, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et les dialectes du midi de la France pour le vocabulaire, ainsi que l'anglais, l'allemand et le russe pour la construction des phrases. Nous ignorons si M. de Rudel rencontra M. de Vertu. C'est vrai, c'est son nom. Ils auraient pu s'entendre. Ce Vertu-là conçut une langue primitive basée sur l'idéographie lunaire, principe des idiomes anciens et modernes. Cet ouvrage, apparu à Château-Thierry en 1868, et ramène toutes les langues à une orthographe primitive. Elle tend à démontrer que le langage si simple à la base s'est ramifié d'une manière colossale par la suite des siècles. Simplifions, simplifions. Un leitmotiv que nous retrouvons encore chez M. Parra, dont les prénoms sont connus uniquement par les initiales HJF, qui inventa le stéchiophonie ou la langue simplifiée. Nous étions alors en 1861. C'est un terme bien compliqué pour être retenu et qui n'a pas eu la bonne fortune du vol à puc. Ah, le vol à puc, cher au capitaine Haddock. L'étymologie de ce mot bizarre est pourtant simple. Vol pour world et puc pour speak. Cette langue mise au point en 1879 par l'abbé Jean-Martin Schleyer, qui vécut entre 1831 et après 1885, on ne connaît pas exactement la date de sa mort, est fondée sur 8 voyelles, toujours longues et 18 consonnes, et qui mettait un accent tonique sur la syllabe finale. On le prononçait comme on l'écrivait. Le vol épique connut un certain succès pendant 5 ou 6 ans et fut à son apogée en 1889. 23 journaux, oui 23, furent rédigés dans cette langue et ont connu 300 vol épique clubs. Cette langue est tombée totalement en désuétude et n'existe plus que par l'intermédiaire, comme nous le soulignons plus haut, des albums de Tintin. Et nous parvenons au XXe siècle. On ne sait plus, en considérant les méthodes qui apparurent tout au long de ces années, si les recherches naient de l'idéologie, de la haute fantaisie ou de l'angélisme. De tout se fatras seul, l'espéranto a sorti son épingle du jeu, puisqu'elle compte toujours en ce début du XXIe siècle des adeptes, et qu'elle est même considérée comme une langue à part entière, avec association propre au sein du Pen Club international. Créée de toutes pièces en 1887, l'espéranto tient entre 16 règles. Son inventeur, le médecin russe Louis-Lazare Zamenhof, a pris dans les langues les plus répandues les racines les plus familières écrites phonétiquement. Mais pour avoir une idée plus complète de cette langue, il suffit de consulter l'Exercaro, c'est-à-dire recueil d'exercice, de la langue internationale espéranto, imprimé à Varsovie en 1896 et traduit par Louis de Beaufront, le premier espérantiste français. Quelques années plus tard, un mathématicien italien du nom de Penon estima que la grammaire constituait la principale différence entre les langues, mais qu'elle n'était pas nécessaire pour s'entendre. En supprimant la grammaire dans le latin, il donna en 1903 naissance au latin sans flexion, qui transforma quelques années plus tard en interlingua. Mireille Pastoureau, directeur de la bibliothèque de l'Institut, a constaté qu'entre 1910 et 1950, une dizaine d'autres langues a dérivé du latinat. Perfect lingua, semi-latin, simplo, novi latina, nov latin, langui, latinilus, unilingue, mondilingua, latino viventi, palingua. Entre-temps, en 1895, la phonographie française ou le français instantané avait tenté de s'imposer comme une grande révolution scientifique et pacifique. Cette phonographie était une science polyglotte mise à la portée de tout le monde. La langue instantanée permettait de prononcer, lire et écrire instantanément dans toutes les langues avec leur véritable accent. L'on vit aussi la langue bleue, Bolac, langue internationale pratique par Léon Bolac, et encore la langue siphone, avec un manuel de conversation et liste des prépositions par Albert Dulotier, et aussi le Spokigl ou Spokil, langue internationale, grammaire exercice, les deux dictionnaires, qui est né en 1904 de la conception du docteur Nicolas. Et cet auteur précisait qu'il avait remanié son Spokil 42 fois en 14 ans. Reste le sabir, qui dans l'esprit populaire signifie quelque chose d'incompréhensible. Ce terme vient pourtant de l'espagnol saber, qui veut dire savoir. Sous ce nom, Pierre Moralda, auteur en 1932 de la langue universelle sabir, projet de grammaire et vocabulaire de la langue auxiliaire internationale, entendait créer une langue de compromis entre les langues latines sonores, les langues germaniques et slaves plus gutturales et les langues franco-anglaises de sonorité intermédiaire. La seconde partie du siècle dernier a curieusement envisagé des synthèses de toutes ces langues universelles. Un certain Paul Mitrovitch, dans son Isidée 1 Inter Systemal Vocabulaire de Auxiliar Lingues, faut-il bien le prononcer comme cela, imprimé à Sarajevo en 1955, s'est purement et simplement inspiré de l'espéranto, de l'ido, de l'occidental et de l'interlingua. On comprend que face à tout cela, Umberto Eco est tenté de comprendre et expliquer ce désir de langue universelle. L'histoire de la culture européenne est parsemée d'efforts pour retrouver la langue qu'Adam parle avec Dieu, dit-il. Ou bien la recherche en arrière, comme la langue adamique originelle, fut-elle l'hébreu, ou un proto-langage d'où l'hébreu même serait issu, ou bien la recherche en avant, en essayant d'inventer une langue philosophique qui serait capable de reproduire les structures mêmes de la raison. Il a écrit cela dans la recherche de la langue parfaite dans la langue culture européenne. Et l'auteur réalise là une encyclopédique enquête, tant sur la langue initiale avant Babel que sur les tentatives de créer une langue idéale et unique après ce chaos. Mais il n'y a pas si longtemps, les partisans du latin vivant cherchaient à retrouver et à imposer une prononciation unique de l'époque cicéronienne.